France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Ce qui est terrible, c'est que finalement, on n'apprend plus rien en matière de qualité de l'air. C'est un peu comme le reste, on sait. On sait que la ville est polluée, on le sait de mieux en mieux, même quartier par quartier désormais, à Paris en tout cas par exemple. Et on va y venir, d'accord, mais et maintenant? Alors j'entends d'ici ceux qui veulent qu'on jette aujourd'hui toutes les voitures. Ça ne va pas se passer comme ça, c'est bien plus compliqué, ce sera en tout cas beaucoup plus lent. Alors comment on fait? Comment on peut se protéger? Faudrait-il à terme arrêter de prendre le métro? C'est ce qu'on a lu aussi. Est-ce qu'on est plus protégé dans une ville qui est un peu moins grande, d'ailleurs qu'à Paris au moins? Est-ce qu'à l'avenir, il faudrait inventer, je ne sais pas, des zones moins polluées pour y construire des écoles? Est-ce que mon vélo m'aide ou suis-je finalement plus exposé? Est-ce que je sais ce qui est réellement dangereux, les particules fines, les particules ultra fines? Est-ce que tout ça, à la fin, pour moi, pour les enfants, c'est la même chose? Essayons de tout comprendre. On parle de notre santé, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pierre, bonsoir. C'est vous qui ouvrez le bal ce soir, soyez le bienvenu.
Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de prendre ma question. Et bravo à France Inter pour toutes ces émissions. Les auditeurs de France Inter sont très attachés à leur radio et c'est mon cas depuis 45 ans maintenant.
Super, voilà. Vous n'avez pas de question, Pierre, du coup.
Si,
allez-y.
Voilà, il y a une question que je tenais à poser, c'était concernant lorsque j'ai entendu le thème de l'émission, j'ai tenu à réagir à propos de la mobilité électrique, puisque j'entends souvent présenter la mobilité électrique comme une panacée à tous les maux, comme quelque chose d'absolument propre, et ça a le don de m'agacer, hein, puisque la voiture électrique est un véhicule, enfin les véhicules électriques de façon générale, hein, que ce soit trottinette électrique, voiture, etc., ont également leur part de pollution, et donc ce n'est pas la solution à tous les maux, d'une part par le fait que de l'autre côté de la prise, il y a une centrale, hein, et que la centrale, elle consomme du combustible. Hein, et j'avais fait le calcul d'ailleurs une fois et j'avais trouvé que pour une petite trottinette électrique, ça faisait quand même 0,3 litres au 100 km.
On a bien compris, Pierre, pardon de vous interrompre. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on nous dit partout que la vraie solution, ce sera quand on passera tous à la mobilité électrique, et vous vous interrogez pour savoir si vraiment c'est la réalité, quoi.
C'est pas aussi simple que ça. Hein, et j'avais lu dans Science et Vie un rapport de l'ADEME qui disait que le meilleur compromis, c'était plutôt l'hybride rechargeable qui permet de rouler sur une dizaine de kilomètres en ville sans que la qualité de l'air soit
impacté,
trop perturbée, mais on n'emporte pas des centaines de kilos de batteries qui coûtent cher à fabriquer.
Merci.
Qui polluent quand on les fabrique, etc.
Merci beaucoup, Pierre. On vous a pas dit d'être un peu synthétique aussi? Normalement, c'est le message qu'on est censé vous passer. Merci beaucoup. Merci mille fois pour cette entrée en matière, pour le démarrage de cette émission. On discute de tout ça, de toute façon, ensemble, jusqu'à 20h et autour de la table. Jocelyne Just, bonsoir. Vous êtes pédiatre, pneumologue, présidente de la Société française d'allergologie. Et non plus. Allons bon.
Ça change, ça
mais,
change.
Mais tout tous change. Les deux ans. Hein, mais c'est pas une bonne journée aujourd'hui. Karine Léger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale d'Air Paris. C'est vers vous que je vais me tourner, Karine Léger, sur la question de Pierre. On en entend beaucoup des questions de ce type-là. On nous dit qu'il faut tous passer à l'électrique. Puis après, on nous parle des batteries. Qu'est-ce que je fais, moi, mon capitaine?
Alors, en fait, les solutions technologiques sont rarement des solutions permanentes. C'est-à-dire que finalement, ce que nous apprend la pollution atmosphérique, c'est-à-dire que rien ne se crée, tout se transforme, et qu'en général, quand on change de type de motorisation ou quand on change de source d'énergie, on transfère le problème. Et donc, notre auditeur a parfaitement raison en disant que finalement, on transfère le problème sur les émissions du véhicule vers les émissions qui sont liées à la production de l'énergie. Je pense que la réflexion, c'est plutôt une réflexion par rapport à la mobilité en général. Quelle mobilité pour quel usage? Est-ce qu'on est obligé de se déplacer partout, tout le temps? Avec quel type de déplacement? Est-ce que c'est plutôt le transport en commun? Est-ce que dans certains cas, c'est la bicyclette ou la trottinette quand on peut? Est-ce que c'est effectivement une voiture quand on peut pas faire autrement sur des longues distances? C'est vraiment une réflexion autour de la mobilité en règle générale.
Moi, avant qu'on aille plus loin dans le débat, je voudrais bien comprendre de quoi on parle, en fait, Jocelyne Just, notamment. Au fond, je ne sais pas ce que c'est une particule fine. On nous en parle depuis très longtemps. On nous dit, mais attention, danger. Particule fine, particule ultra fine, 2,5 micromètres, 10 micromètres. De quoi on parle, en fait? Ce qui est vraiment dangereux, c'est quoi? Et ça fait quoi surtout ?
Alors pour la santé, plus la particule, plus les particules sont fines et plus elles pénètrent dans l'organisme.
Logiquement.
Par exemple, des particules de 10 micromètres, ça s'arrête au niveau du nez.
Donc 10 micromètres, c'est quoi par exemple ?
C'est la taille d'une cellule.
Oui, non, mais qu'est-ce qui produit des particules qui ne sont pas si fines de 10 micromètres ?
Alors, les
que je me fasse une idée.
En fait, les particules, elles sont émises par plein d'activités. Elles sont émises bien évidemment par le trafic, mais elles sont aussi émises par le chauffage, elles sont émises par des réactions chimiques
dans
l'atmosphère.
Mais du coup, pardon, c'était ça ma question en fait. Est-ce que c'est la voiture est plus dangereuse que le feu de cheminée parce qu'on parle d'une particule qui est plus fine ou ultra fine? Qu'est-ce qui est vraiment dangereux pour nous?
Qu'est-ce qui est dangereux pour nous? C'est la voiture.
D'accord.
Pour moi, en tant que médecin, pédiatre, pneumopédiatre, allergologue, c'est la voiture. Toutes les études scientifiques, si vous voulez, montrent que c'est le trafic automobile qui va être associé aux répercussions sur la santé. C'est la distance par rapport aux voies à fort trafic qui va vous faire augmenter le risque de diabète, d'Alzheimer, d'asthme, de bronchite chronique. C'est la distance par rapport au trafic. Donc, il faut bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il n'y a pas uniquement l'essence, que l'électrique, il faut voir, etc. Mais il faut diminuer le trafic. Et notamment, il faut faire disparaître le diesel. Ça, c'est clair.
C'est en cours. C'est long, mais c'est en cours.
Mais il faut pas les contre-messages, quoi. Hein. C'est-à-dire de dire, peut-être, mais l'électrique, mais peut-être que... Non, il faut que le trafic diminue. Il faut favoriser le covoiturage. Il faut favoriser les parkings autour de la ville. Il faut favoriser les vélos. Il faut favoriser la marche à pied. Il faut... Et d'autres l'ont fait et les critères sanitaires se sont améliorés.
Est-ce qu'on a une vraie manière de faire une différence? Je prends une ville de taille moyenne, une Amsterdam, où tout le monde est à vélo. Est-ce qu'on peut dire, eh ben oui, ça se voit d'ailleurs à la qualité de l'air? Est-ce qu'on peut le dire aussi franchement que ça?
Alors il y a deux points. Il y a à la fois une ville de la taille d'Amsterdam, c'est pas une ville de la taille de l'agglomération parisienne.
On est d'accord.
Et il y a
assez
peu de villes en Europe qui ont la taille de l'agglomération parisienne, et donc une densité de trafic et d'urbanisation qui est celle qu'on peut trouver dans une ville asiatique. Donc effectivement, on ne gère pas une ville de la taille...
Plus que Londres, par exemple, qui est beaucoup plus grande que Paris?
Tout à fait. Dans le cœur de Paris est vraiment particulièrement dense. Donc déjà, en termes de taille, vous n'avez pas les mêmes niveaux de pollution parce que vous n'avez pas la même densité de population et de trafic. Et effectivement, quand on a fait des mesures, par exemple, le long des pistes cyclables, pour mesurer l'exposition, par exemple, des cyclistes, on voit très bien que le cycliste est moins exposé que le conducteur dans sa voiture, et le moins exposé des moins exposés, c'est le piéton, parce que ce qui joue, c'est la distance au trafic.
Bien, on a une question de Frédéric, je vais attendre qu'il soit prêt, parce que c'est à peu près de cet ordre-là. Bah, Frédéric, tant pis, je vais la prendre pour vous, parce qu'on est pile dans ce sujet-là. Quand on fait du vélo en ville, est-ce qu'on est plus en danger, au fond, qu'en voiture, avec ce qu'on respire?
Non, on a fait des mesures, on a équipé des vélos avec des mesures et qui sont les mesures que l'on a dans nos stations de référence, et on voit que en fait le cycliste a une exposition qui est intermédiaire entre celle de l'automobiliste et celle du piéton. L'automobiliste est vraiment le plus exposé au niveau de pollution les plus importants puisqu'il est au cœur du trafic. C'est en Île-de-France là où on a les niveaux de pollution les plus importants, et donc il est vraiment en prise directe avec les pots d'échappement qui sont devant. Le piéton est moins exposé puisqu'en fait il y a une distance au trafic qui est plus importante, et le cycliste en fait il va varier entre les deux, et ce qui va jouer c'est le choix de son itinéraire, et notamment les axes qui sont aménagés pour les cyclistes permettent de diminuer son exposition.
Ce qui va jouer c'est son éloignement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Justine.
Oui,
Juste.
Tout à fait, mais c'est aussi lorsqu'on est en pic de pollution, parce qu'il y a la pollution de fond qui est très mauvaise aussi et la pollution en pic, et lorsqu'on est en pic de pollution, faut pas faire trop d'efforts physiques quand même. Pas courir, parce que lorsque vous allez ventiler plus, vous allez inhaler plus.
Donc ça veut dire que quand on est en pic de pollution, circulation alternée par exemple, et que ceux qui ont une voiture qui a pas le bon critère préfèrent le vélo, au fond, pour eux, ils n'y gagnent pas. Pas vraiment.
Alors, je pense que si quand même, parce qu'à l'intérieur d'une voiture, on sait que le niveau de pollution est quand même très élevé.
C'est bien de rappeler qu'à l'intérieur aussi, vitres fermées, on est d'accord.
Ouais.
Et c'est vraiment là où le niveau d'exposition est le plus important. Et si vous êtes sur le périphérique dans un tunnel, on a des niveaux qui sont 10 fois supérieurs à ce qu'on peut mesurer sur un trottoir.
Bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Bruno, on vous écoute.
Oui, donc moi j'ai 63 ans. Aujourd'hui j'ai fait ma première consultation chez le pneumologue. Et je vis dans les Cévennes où l'air est relativement préservé. Et j'ai constaté que chaque fois que je descends dans la plaine, c'est-à-dire assez régulièrement pour des raisons familiales au sud des Alpilles, je ne respirais plus, tout simplement. que j'étouffais. Et les Alpilles, c'est à quelques kilomètres, à quelques dizaines de kilomètres de Fos-sur-Mer, Marseille.
Donc c'est pas très étonnant sur la pollution industrielle qu'il y a autour, au fond, Bruno, en fait.
Tout à fait, mais la pollution industrielle et le trafic aussi, c'est-à-dire le trafic routier, c'est-à-dire les liaisons entre l'Italie et l'Espagne, l'Italie, le nord de l'Europe, et l'Espagne, le nord de l'Europe, se font dans ce couloir rhodanien. Et alors j'ai pu constater via une application que j'ai installée sur mon smartphone qui s'appelle Windy. Alors c'est une application qui est faite pour les marins, qui sert à mesurer le vent, les impacts météo, enfin les isobars. Voilà. Et il y a des onglets qui permettent de contrôler la qualité de l'air, l'oxyde d'azote, les particules fines et le SO2. Donc c'est assez stupéfiant de constater que avec la météo se déplacent des masses considérables de pollution et que d'un endroit à un autre on a des masses de pollution qui sont absolument considérables. Et directement, moi, je souffre de ça.
Merci, bon, Bruno. Pardon, allez-y.
J'ai pu constater aussi, par exemple, que entre la Corse et Marseille, on peut suivre la trace des ferries qui font liaison, simplement en regardant la masse de SO2 et la traînée qu'ils laissent en mer. Voilà.
Les ferries, on pourrait faire une émission entière sur les ferries. Merci beaucoup, Bruno, pour votre témoignage. Jocelyne, juste, est-ce que ça change vraiment quelque chose quand on se déplace à ce point-là? C'est-à-dire, la vraie différence que sent Bruno entre ses Cévennes et lorsqu'il est à Fos sur mer ou ailleurs, ou même lorsqu'on est à Fos qui est plus pollué à cause de son industrie ou ailleurs, est-ce que ça fait une vraie différence?
Quand on est asthmatique, oui. Ouais. L'asthmatique, on dit que c'est le sentinelle de l'environnement. C'est-à-dire que lui, il sent tout de suite. Hein. Moi, je suis pédiatre, les maires me disent, nous, on sait les pics de pollution. Avant même que ça soit annoncé à la radio, notre enfant fait une crise d'asthme.
Donc l'asthmatique, comme les rhumatismes, en fait.
Ouais, l'asthmatique sent la différence. Et quelquefois, dans les asthmes sévères de l'enfant, heureusement, ce sont des situations rares, on est obligé de les mettre en cure climatique pour respirer. Parce que on est à bout des traitements et en pleine, on n'arrive plus à contrôler la maladie.
Parce que moi, je me posais la question sur cette fameuse carte donc qu'il y a désormais dans Paris qui donne une espèce de cartographie de l'état de la pollution. Est-ce que là, pour le coup, quand on est à l'échelle d'une grosse aglo comme celle-ci, il y a une différence réellement entre, je dis n'importe quoi, pardon, le 20e qui serait pas trop pollué et le 4e qui l'est beaucoup? Est-ce que nos poumons sentent vraiment la différence ou pas?
Là, il y a différents types de différences. Il y a une différence au jour le jour, enfin même heure par heure, c'est-à-dire qu'en fonction notamment des pics de trafic, vous voyez, c'est des cartographies qui sont produites par Air Paris que vous avez sur notre site et avec une résolution de 10 mètres dans Paris, et vous voyez très bien les pics de trafic le matin. La pollution est beaucoup plus importante le matin et le soir. En moyenne sur l'année, ce qui est la pollution chronique, ce que vous respirez toute l'année, finalement, le cœur de l'agglomération parisienne est relativement homogène. Et effectivement, on voit très bien que quand on s'éloigne de l'agglomération parisienne, on a une amélioration de la qualité de l'air.
Mais ça veut dire vraiment qu'au quotidien, si je vis et que je travaille dans mon quartier, je peux être en meilleure santé, très sincèrement, pulmonairement parlant, si je puis dire, que quelqu'un qui habiterait dans le 15e, par exemple.
Alors, au PIF. Par exemple, il y a des études qui ont été faites chez l'adulte où ils ont fait marcher des asthmatiques dans une rue extrêmement polluée et puis dans des rues en pleine dans des parcs en ville, et ils ont montré à Londres, en faisant après des examens à ces asthmatiques, que ceux qui avaient marché 2 heures dans une rue polluée par rapport à ceux qui avaient marché dans des jardins avaient des constantes respiratoires beaucoup plus mauvaises et une inflammation au niveau du poumon qu'ils ont pu mesurer. Donc au quotidien, oui, il y a l'espace-temps de chacun, où vous allez aller, combien de temps vous allez passer, et il faut quand même essayer d'éviter les voies.
C'est ça qui est fascinant, ça se joue parfois à quelques centaines de mètres au fond. Est-ce qu'on dit ça? Ça peut se jouer parfois à si peu de choses.
Sur des polluants comme le dioxyde d'azote, effectivement, ce qui est important, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment la distance au trafic. Et c'est pour ça qu'on a une application qui s'appelle Itinéraire, qui vous permet en tant que piéton ou cycliste de choisir votre trajet en fonction de l'heure et en fonction du parcours.
Et en fonction de l'état de la pollution, donc on peut la suivre. Est-ce que les prévisions, parce qu'il y a aussi des prévisions maintenant sur ce genre de cartographie, sont réellement fiables?
Alors les prévisions prévisions, elles existent depuis très longtemps. Elles sont faites par Air Paris, elles existent depuis très longtemps. C'est des prévisions au jour le jour sur les différents polluants, et notamment sur les polluants qui sont réglementés pour leurs effets sur la santé. C'est des prévisions par rapport aux épisodes de pollution. Donc oui, effectivement, c'est des prévisions qui existent depuis très longtemps et qui permettent à la préfecture de police de prendre des mesures en cas d'épisode.
François, bonsoir. François.
Je suis sur le haut-parleur, il faut que je coupe.
Ouais, c'est mieux de couper le haut-parleur, François, parce que sinon ça va faire de l'écho.
Oui,
on va croire que vous êtes dans une cathédrale. Allez-y, on vous écoute.
Alors, bonjour. Je vous ai contacté il y a quelques mois concernant pourquoi les Français courent. J'avais fait mon premier marathon et là je me pose la question en entendant
c'est
le
vrai.
Sujet d'aujourd'hui.
Du coup, vous vous dites, mince, maintenant que je cours, je suis en danger.
Voilà, exactement la question. Est-ce que j'ai plus de bénéfices à courir que à me préserver de cet air pollué?
Où est-ce que vous courez, François?
Alors, je cours dans la métropole lilloise, une métropole qui est très régulièrement en alerte pollution. Donc voilà, ça c'était ma question.
Merci beaucoup pour votre question et puis bon courage quand même pour vos futurs marathons, François. Jocelyne Just, moi j'aime bien la question de François.
Non, il faut courir, hein. Il faut courir, c'est bon pour la santé, mais il faut pas courir en pic de pollution, quoi. Hein,
si ou le long du trafic.
Ouais. Voilà, ou sur une voie à fort trafic.
Il y a des gens qu'on voit courir. J'ai lu beaucoup d'avertissements là-dessus avec des masques, notamment pendant les périodes de pollution. Est-ce que c'est la fausse bonne idée par excellence que de courir avec un masque?
C'est pas efficace.
Même marcher d'ailleurs.
Ça va vous retenir que les grosses particules, quoi. Donc, c'est pas celles-ci qui sont les plus nocives. Donc,
et ça filtre pas les gaz.
Voilà, malheureusement, c'est pas efficace.
Et comment ça se fait pourquoi il y a une culture du masque dans certains pays asiatiques, par exemple? Parce que ça veut dire que c'est un autre type de pollution qui fait qu'ils sont mieux protégés contre certaines choses ou pas?
Ou c'est aussi pour protéger quand on est malade. En Asie, le masque est aussi porté quand on est enrhumé pour pas contaminer les autres.
Bonsoir, Philippe. Philippe. Ah, Philippe n'est pas encore là, pardon, j'ai regardé de travers, excusez-moi. Philippe n'est pas encore là, mais il ne saurait tarder qu'il arrive. Tiens, le voilà, Philippe, pardon, c'est de ma faute. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Allez-y,
bonsoir,
vous écoutez.
France Inter. Écoutez, voilà, dans toutes ces questions sur les qualités de l'air et sur quels sont les véhicules qui polluent, je trouve qu'il y a un grand absent, ce sont les motos et les motards. On n'en parle jamais, on en parle très peu. Je ne suis pas un motard en colère, même si je suis un motard, je suis plutôt un motard joyeux. Je prends ma moto pour aller au boulot tous les jours, etc. Et je trouve que en tant que motard, nous sommes plutôt des agents qui fluidifient le trafic. Et donc, même si on a des moteurs qui polluent peut-être un peu plus, alors ils sont jamais diesel, hein, des motos diesel, ça n'existe pas. On commence à voir des motos électriques, mais la question des motos électriques comme des vélos électriques, moi, me semble problématique parce qu'on ne parle jamais de comment on construit ces batteries électriques et qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'elles sont usées. En attendant, voilà. Enfin, donc, est-ce que, j'ose, la moto, c'est pas l'avenir du transport urbain.
Alors, autour de moi, Philippe, si vous aviez vu la tête qu'on a faite, vous comprendriez que la réponse est non. Et en toute transparence, je dois dire que moi aussi, je suis motarde et motarde heureuse, cher Philippe. Mais néanmoins, Jocelyne Just, visiblement, c'est pas ça la solution.
Non, je crois pas, mais je vais laisser parler la représentante d'Air Paris parce qu'elle va vous dire que, en fait, ça émet.
Alors, en fait,
il y a eu
une étude qui a été faite avec la ville de Paris la semaine dernière sur des mesures en conditions réelles de circulation, où il y a 180 000 véhicules qui sont passés sous un laser. Et elle met en évidence que d'abord les motos, il y a quand même des normes euro qui sont très en retard par rapport aux véhicules. Donc oui, elles polluent plus que des véhicules.
Quel que soit l'âge. Les normes euros sont très en retard,
sachant que pour les véhicules, de toute façon, les véhicules ne respectent pas les normes euros. Ils émettent en conditions réelles de circulation beaucoup plus. Et dans l'étude que l'on avait faite, donc Air Paris et le King's College, on mettait aussi en avant le fait que le développement de ces motorisations, pour certains polluants et notamment les hydrocarbures, pose souci parce que ce sont des véhicules, une moto est beaucoup plus émettrice en hydrocarbures par exemple qu'une voiture. Donc c'est pas forcément une bonne solution non plus.
Moi ce que je trouve toujours étonnant dans ces moments-là, c'est la fameuse vignette qu'on a à Paris, mais pas seulement, il y a plusieurs villes qui ont ce genre de vignette critère, 1, 2, 3, 4. Au-delà de ça, c'est ce qui détermine désormais la circulation qui n'est plus alternée, et au-delà de ça, on n'a plus le droit de rouler. Pourquoi est-ce que j'ai la même critère 1 avec une moto, donc, qui est une moto récente, mais pourquoi j'ai le même critère 1 qu'une voiture, du coup, qui semble-t-il pollue deux fois moins que moi?
Alors, ça dépend des polluants. Là, je parlais par exemple des hydrocarbures. Les motos rejettent plus d'hydrocarbures qu'une voiture. Mais en fonction du type de motorisation, du type de voiture, les polluants qui sont émis ne sont pas nécessairement les mêmes. L'objectif de ces critères, c'est quelque chose...
Donc, c'est juste une question de fluidifier la circulation.
C'est une question d'enlever les véhicules les plus polluants. Et donc, même si les normes euro ne sont pas parfaites et que les véhicules émettent plus en conditions réelles de circulation que les normes euro, néanmoins, des véhicules récents sont moins polluants que des véhicules plus anciens, et par exemple des critères 5 ou des critères 0. C'est pour ça qu'il y a une zone de basse émission à Paris, mais qui est aussi en train d'être étendue à l'agglomération parisienne, parce que ces véhicules sont moins nombreux, mais ont une responsabilité en termes de pollution qui est plus importante. Et c'est fait déjà dans 240 villes en Europe.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait deux niveaux de vignettes de ce genre-là, par exemple, en fonction de ce qu'on émet, et en fonction donc du danger potentiel qu'on traîne avec nous, ou pas?
Ou en tout cas, les résultats de l'ICCT mettent aussi en avant qu'il faut aussi une réflexion au niveau des normes euro, et des normes euro qui soient plus cohérentes entre la norme elle-même et ce que rejettent réellement les véhicules en conditions de circulation.
Jocelyne Just, vu votre vue de pédiatre et de pneumologue, faudrait-il une sorte d'échelle mieux faite? Est-ce que déjà ça aiderait si on était plus regardant dans ces critères-là, et qu'au fond, effectivement, pourquoi pas une catégorie 2 roues, une catégorie 4 roues qui disent des choses?
Je pense que c'est des mesures multiples qui font baisser la pollution. Il y a eu des études qui ont été faites en Californie. C'est très intéressant parce que c'est le caractère optimiste, je trouve, de cette étude. Mmh. Où on a regardé la fonction respiratoire de nourrissons donc qui étaient nés avant les mesures anti-pollution dans ces villes de Californie. Et on a vu que la fonction respiratoire de nourrissons sains était altérée. C'est-à-dire qu'ils avaient une croissance pulmonaire qui n'était pas normale. En prenant des mesures courageuses qui étaient le covoiturage, les parkings à l'extérieur de la ville, le vélo, l'interdiction du diesel, les motorisations alternatives, on a vu la croissance pulmonaire des nourrissons et des larges cohortes, hein, c'est pas un ou deux nourrissons, c'est plus de 1000 hein, qui ont été mesurés comme ça de façon prospective, de la naissance à l'âge de 5 ans, donc c'est très très fort, s'améliorer. Donc c'est plein de choses associées qui font que la qualité de l'air va s'améliorer. Et ça passe d'abord par enlever le diesel, hein, le covoiturage, les vélos, les parkings extérieurs, diminuer le trafic automobile.
Marie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à Lyon, Marie, on vous écoute.
Oui, je suis pas à Lyon intramuros, hein, je suis à 15 km au nord de Lyon. Mm-hmm. Oui, je voulais quand même qu'on aborde le problème de la densification de la population liée aux zones d'emploi. Parce que on dit que les gens prennent leur voiture pour aller travailler. C'est beaucoup, dont mon compagnon par exemple, pourrait ne pas prendre sa voiture pour aller travailler. Seulement il aurait 2 heures de trajet. Dans des trains bondés et avec trois correspondances pour aller travailler, parce que son entreprise a déménagé dans le sud de Lyon. Bon, alors il y a plein de gens qui sont... Il ne va pas quitter son entreprise. À l'âge qu'il a, il avait plus de 50 ans, il ne va pas quitter son entreprise pour chercher où. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont confrontés. Les gens sont confrontés quand même à des situations où ils se voient contraints, malgré eux, je dis bien malgré eux, pour beaucoup, de prendre leur voiture pour aller travailler. Alors j'aimerais qu'on puisse aborder quand même le problème de fond, que sont ces métropoles monstrueuses qu'on est en train de construire, obligeant les gens à aller se concentrer dans ces zones-là pour leur emploi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument.
C'est absolument... Il faut quand même réfléchir au fond. Il ne va pas aller en covoiturage à son travail. Le covoiturage, c'est bien gentil, à condition d'avoir des trajets qui correspondent à celui qui vous covoiture. Voilà. Et puis, quand on a des enfants et qu'on a des obligations, on ne peut pas obliger celui qui vous emmène en voiture de s'arrêter ou de vous prendre à une heure qui ne lui convient pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut se mettre à la place des gens qui vivent cette galère. Voilà.
Merci beaucoup pour votre question, Marie. C'est une question qu'on entendait beaucoup, et notamment au moment de la crise des gilets jaunes, quand on parlait de prix d'essence, de taxes carbone, etc. Ouais. C'est une question valide. Faut-il on va pas tous s'agglutiner en ville et à vélo, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marchera. Donc qu'est-ce qu'on peut répondre à Marie, en fait?
Alors, sûrement que votre mari ou votre compagnon, c'est compliqué. Mais il y a des gens pour lesquels c'est pas compliqué, et qui prennent quand même la voiture pour des petits trajets dans Paris. Moi, j'ai été de cela, alors je le dis. J'ai été dans les années 80 où on parlait pas beaucoup de pollution. J'ai amené mes enfants à l'école avant de... et je les déposais devant l'école avant d'aller travailler. Il y a des gens qui continuent à faire ça. Je pense que c'est un manque d'information. Et je pense aussi que quelquefois, alors c'est probablement pas le cas de votre compagnon, on se crée des choses dans la tête et on se dit mais non, c'est pas possible pour moi, ça va faire une heure de trajet, ça va faire... il faut essayer. Moi, j'ai un médecin dans le service qui m'a dit, moi, je ne peux pas, je suis à l'aise, on est à l'aise, c'est impossible. Un jour, elle a essayé, elle a pris le métro, la ligne 2. Eh ben oui, elle s'est levée un peu plus tôt.
On parle de l'intramuros, là, du coup. Voilà. C'est, est-ce qu'il y a encore un autre souci? Ouais. Quand on est extramuros, il faut reconnaître que c'est pas toujours aussi simple que ça.
Ouais.
Est-ce qu'on sait, parce que je comprends aussi les changements d'attitude parfois quand on peut le faire, est-ce qu'on a une idée, je sais pas comment ce serait quantifiable au fond, du nombre de voitures en moins qu'il y aurait si ceux qui peuvent s'en passer, s'en passaient? Est-ce qu'on sait ce que c'est la voiture inutile, en gros, ou pas du tout? Je veux pas vous piéger parce que j'en sais rien moi non plus en fait.
Non, mais en plus ça dépend. Enfin, je pense qu'on n'a pas tous la même notion de voiture
de l'inutile.
Après, on est aussi, c'est pas forcément adapté pour tous les métiers, mais on a aussi une évolution des technologies et une évolution des mentalités, notamment par rapport au télétravail, qui peut éviter aussi qu'on fasse tous le même trajet matin et soir, alors qu'on peut aussi travailler chez soi. Il y a d'autres bénéfices. Il y a aussi.
Tu sais qu'on a deux doigts de faire un téléphone sonne sur ce que nous générons aussi en énergie négative, en pollution, etc. avec nos ordinateurs.
Et il y a aussi, il y a aussi un enjeu au niveau des entreprises pour organiser des plans de déplacement d'entreprises. Et avec des entreprises qui sont éloignées, par exemple, de transport en commun, réfléchir à des plans de déplacement d'entreprises puisque leurs salariés viennent tous au même endroit et peut-être qu'il y a des solutions à trouver. Le covoiturage, il y a aussi, avec le développement des nouvelles technologies, il y a aussi plus de solutions que ce qu'on aurait pu imaginer avec, pour faire du covoiturage par rapport à il y a quelques années.
Allez-y, Jocelyne Just. Pardon, vous vouliez intervenir? Je vous ai vu lever la main, mais en fait, pas du tout.
Non, je ne levais pas la main, mais c'est toujours pour... Moi, je suis pédiatre, si vous voulez. Je vois au quotidien des enfants qui souffrent de la pollution. Mais vraiment, c'est-à-dire qui ont un asthme sévère, qui ont des machines électriques à la maison pour respirer le matin et le soir, qui ont des allergies, qui peuvent plus rien manger sous peine de faire une anaphylaxie avec de l'adrénaline, sauf que je ne voyais pas avant. C'est vraiment des pathologies qui à la fois augmentent en fréquence mais aussi en gravité. On ne peut pas regarder ça de façon en disant bah écoutez c'est fatalité, on peut pas faire autrement. Il faut que chacun d'entre nous, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, qu'est-ce que je peux faire sur le plan civique. Alors des fois c'est impossible, je le comprends très bien, mais il faut se poser la question et au quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour moins polluer.
Marc, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je crois qu'elle a en partie répondu à votre question, Jocelyne Just. Peut-être même que vous allez vous faire engueuler. Allez-y.
Oui, évidemment, avec cet argument, comment massu entre guillemets, c'est vrai que quoi répondre et quelle autre question poser. Néanmoins, je continue quand même à penser qu'on est quand même parano et qu'on suit des effets de mode. Et j'ai même l'impression qu'on ostracise pas mal des possesseurs d'anciens diesels. Et c'est pas de leur faute s'ils continuent d'utiliser ce type de véhicule. Ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Et d'autre part, il ne faut pas jeter le diesel en bloc. Je pensais pas donner cette impression là-dessus, mais malgré tout, je la donne parce que c'est le diesel. Il y a des nouveaux diesels qui n'ont pas tous ces défauts. Et d'autre part, il y a des formules, d'hybride et même avec moteur diesel qui seraient très bien parce que le moteur diesel conserve un avantage, c'est d'être très sobre. Et je dis ça, je ne travaille pas dans l'automobile et je n'ai pas de voiture. Voilà, c'est une toute autre chose.
Donc vous êtes sauvé, Marc, parce que vous étiez à deux doigts.
J'avais l'impression que ces particules existait depuis fort longtemps, mais que avant on ne pouvait pas avoir une peur bleue de ces substances, étant donné que on n'avait pas les moyens techniques. On a fait d'énormes progrès en électronique, dans chimie, dans le domaine des capteurs et dans le domaine technologique. Et c'est pour cela que maintenant on se rend compte qu'ils sont nombreux. Et j'ai l'impression que c'est à cause de cela qu'on devient vraiment presque hystérique à cause de cela. Et je trouve qu'on a beaucoup trop de démarches coercitives et qu'il faudrait faire beaucoup de bon sens. Alors on est prêt. Moi, j'ai apprécié la remarque de la dernière auditrice là qui parlait des difficultés pour les personnes qui voudraient se déplacer avec du covoiturage. Enfin, vous parlez de transport en commun, mais c'est vrai, c'est compliqué.
Merci Marc. Merci beaucoup pour cet appel qui a fait beaucoup réagir nos deux invités. Il y a trois choses, Karine Léger. D'abord, il y a du bon diesel, nous dit Marc. Est-ce que c'est vrai qu'il y a du bon diesel? Allons-y sur les choses très concrètes.
Il n'y a pas du bon diesel. Sur la question de l'évolution des particules, en fait, et ça rejoint le premier point sur les particules fines, ultra fines, PM10, PM2.5. La pollution a changé de nature. Et par rapport aux fumées noires qu'on mesurait il y a 50 ans, liées à des activités industrielles, on suit des particules de plus en plus petites, puisqu'avec l'évolution des technologies, on a des particules de plus en plus petites, et on mesure maintenant des particules ultra fines.
Donc certes, on mesure mieux ce qui existait déjà, mais on pollue beaucoup plus qu'on polluait
autrefois. C'est surtout que les technologies évoluent, et qu'avec les nanotechnologies et avec les nouveaux diesels, on produit aussi des particules ultra fines qui ont la taille d'un virus ou la taille d'une molécule d'ADN, et donc qui pénètrent encore plus profondément dans l'appareil respiratoire. Sur la question des vieux diesels, je parle pour l'agglomération parisienne et pour Paris. Il y a aussi tout un tas de mesures qui sont mises en place par la municipalité de Paris, par la métropole du Grand Paris et par l'État pour accompagner le renouvellement du parc automobile. Et sur ces questions de particules et de pollution atmosphérique, c'est loin d'être de l'hystérie. C'est aussi un lien avec le changement climatique. Et même l'OMS dit, en agissant sur la pollution atmosphérique, on aura aussi un co-bénéfice sur le climat.
Est-ce que vous diriez, vous, parce que dans ce genre d'émission, il y a beaucoup de dialogues après, notamment sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de réconcilier les uns et les autres, faut-il être plus coercitif, honnêtement? Notamment vis-à-vis des véhicules de 4 roues et même 2 roues d'ailleurs, tout ce qui est à moteur en fait. Faut-il être plus coercitif?
Moi je pense
donc interdire.
Il faut surtout faire informer pour pas que l'interdiction soit prise comme quelque chose de terrible.
Une interdiction, c'est toujours terrible.
Mais oui, mais quand vous dites, si vous fumez, c'est votre droit, d'accord? Vous êtes informé, c'est votre droit. Mais quand vous polluez les enfants, que on sait que lorsqu'une femme enceinte respire un air pollué, son patrimoine génétique est modifié et que l'enfant à naître a des gènes qui vont s'exprimer, gènes de futures maladies. Lorsqu'on sait qu'une femme enceinte, lorsqu'elle respire un air pollué, va avoir un enfant de plus petite taille ou un enfant qui va développer des maladies respiratoires, on n'a pas le droit de dire « c'est mon droit ».
Non mais je suis pas sûre que les gens disent c'est mon droit. Enfin, on n'en est pas non plus. Est-ce qu'on en est encore à l'époque où j'ai un gros 4x4 et j'emmerde tout le monde? Pardon.
Un gros SUV.
Ça existe des gens comme ça. Mais vous croyez pas qu'on est passé à autre chose aujourd'hui? Non, vous croyez pas qu'on est passé à autre chose? Ça existe, on est d'accord. Mais la conscience de tout ça.
La conscience que le diesel est mauvais. Est-ce que vous avez la conscience que quand vous, sur le plan scientifique, si vous voulez, mais c'est majeur le diesel. On a vu in vitro, c'est-à-dire on prend les cellules pulmonaires et on met le diesel à concentration réaliste. On voit ce que ça donne. On voit qu'on modifie l'immunité. On voit qu'on modifie les gènes. On a vu chez des sujets sains, lorsqu'on les met en concentration réaliste, qu'on développe une hyperactivité bronchique, c'est-à-dire un asthme. On a vu que par le diesel, donc il y a une action qui est à la fois immunogène, c'est-à-dire modification de l'immunité, mais également irritant.
Et ça, c'est pas passé. Vous avez l'impression qu'on ne sait pas ça encore vis-à-vis du diesel, par exemple.
Parce que si on savait ça chez les jeunes enfants, chez les femmes enceintes, on se dirait. Voilà, je ne peux pas avoir le discours, un discours que le diesel, finalement. Bon, peut-être.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais désormais, il y a une date butoir, désormais, à Paris et en France. Donc, vous n'avez pas le sentiment que ce discours-là, ça y est, il est intégré. On sait que c'est dangereux, le diesel, ou pas. Non?
Je pense qu'il y a aussi la confrontation à la réalité et à des difficultés qui sont réelles, parfois pour se déplacer, pour changer de véhicule. Et donc, c'est à la fois entendre toutes ces informations et se dire oui, mais moi, au quotidien, comment je fais? C'est la question, elle est réelle.
Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je posais la question. Faut-il qu'on soit plus coercitif, en fait? Parce que le temps normal, on va dire, est un temps trop long. Donc, faudrait-il, pour accélérer les choses, être plus coercitif, si vous y avez le choix?
C'est l'objectif des zones de basse émission, avec des scénarios qui vont vers un renforcement renforcement des zones de basse émission. Et finalement, ce côté coercitif a aussi un côté incitatif, puisque quand on est dans une position de changer son véhicule, on se dit, bah, finalement, je vais peut-être pas prendre ce type de véhicule parce que peut-être que dans 5 ans, je pourrais plus rouler.
À Paris, par exemple, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on peut dire oui, ça marche pour l'instant, puisque les voies de voitures sont réduites et que les voies de vélo sont augmentées? Est-ce qu'on peut dire officiellement aujourd'hui, oui, c'est vrai, il y a moins de voitures dans Paris qu'il y en avait?
Il y a plusieurs choses. C'est Paris et l'agglomération parisienne, puisque c'est vraiment une entité en termes de pollution. Et quand on regarde, il y a différents facteurs. Il y a à la fois les facteurs qui sont liés au renouvellement du parc automobile, même si les normes euro ne sont pas parfaites. Néanmoins, les véhicules actuels sont moins polluants que les véhicules anciens. Et il y a les actions qui sont menées par la municipalité de Paris pour réduire le trafic. Et quand on regarde la part des deux, finalement, sur des polluants comme les oxydes d'azote ou les particules qui sont des polluants locaux, l'effet le plus important, c'est le renouvellement du parc automobile. Mais il y a aussi un effet complémentaire de la réduction du trafic. Et quand on prend les gaz à effet de serre, l'effet le plus important, il est vraiment lié à la réduction du trafic, à la diminution du volume. Donc les deux sont vraiment liés. Et juste un dernier point, dans ces études-là, qu'on a également faites avec Londres, avec le King's College, on met en évidence que si on avait renouvelé avec moins de diesel, on aurait gagné plus en termes de qualité de l'air. Et on met aussi en évidence que si les constructeurs automobiles avaient tenu leurs engagements, on aurait les actions qui ont été mises en place par les collectivités, par l'État, auraient été aussi plus impactantes.
Philippe, c'est vous le dernier. Promettez-moi d'aller un peu vite, mais bonsoir à vous et soyez le bienvenu.
Merci à France Inter aussi. Voilà, j'habite dans le 04, j'ai habité très longtemps à Marseille et je comprends pas que l'État ne se décide pas à décréter impérativement que tous les transports en commun doivent accepter les vélos et autoriser la mobilité. Je prends le métro à Marseille, il n'y a pas d'escalier, il n'y a que des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalator, ni pour les vélos, ni pour les handicapés.
Merci beaucoup Philippe, et c'est pareil chez vous, c'est pareil à Paris, oui, c'est pareil dans toutes les villes qui ont métro et autres trams. Est-ce que ça aiderait réellement si on pouvait mettre chacun notre vélo dans le métro finalement?
Aux Pays-Bas, il y a tout un système effectivement avec des parkings qui permettent de garer son vélo de façon sûre quand on prend les transports en commun.
Ce qui aiderait surtout, ce serait ça en fait, ce serait de pouvoir le garer sans craindre de le perdre.
Voilà, c'est ça.
Et ce serait déjà quelque chose. Est-ce que ça a été calculé ça? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, puisqu'on est dans l'exemple de Paris, on est devenu une capitale qui commence à faire du vélo? Il y avait un chiffre qui était très bas jusque-là. Est-ce que ce chiffre est en train de monter? Est-ce qu'il y a un changement de... On était à 2%. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme vis-à-vis du vélo dans Paris, sérieusement?
Alors moi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, il y a un développement des pistes cyclables et un développement des vélos qui est relativement important à Paris, mais par contre, je n'ai pas les chiffres.
Non, je ne sais pas non plus les chiffres.
Ce sera un chiffre à chercher une autre fois pour voir effectivement si ces choses-là fonctionnent réellement. C'est pour ça que je parlais du coercitif et de l'incitatif, parfois un peu des deux, ça fait un mélange intéressant. Merci beaucoup en tout cas à tous, on aura l'occasion d'en refaire des émissions de ce type-là, j'ai envie de dire hélas. Mais en tout cas, merci à tous pour vos nombreuses questions également, portez-vous bien.